RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG attaquent la troisième heure. Les grandes gueules avec vous, bien sûr, depuis 21 saisons maintenant. Les GG avec le docteur Jérôme Marty, avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, avec Flora Guebali, l'entrepreneur dans la transition écologique. Et on va parler du livre dont tout le monde parle.
RMC, face aux grandes gueules.
Everybody! Hey, hey, hey! Hey, 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 everybody!
On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse.
For sure.
Everybody! Hey, hey, hey!
Petite production autour du président Macron. Florian Tardif est avec nous, un couple presque parfait aux éditions Albin Michel. Bonjour Florian.
Bonjour à vous.
C'est pas simple quand on s'attaque à la vie privée des responsables politiques, parce qu'on est tout de suite accusé d'être dans le déballage, dans le voyeurisme. Ce n'est pas du journalisme. On entend ça de votre livre, Florian Tardif. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ?
Je les entends. En revanche, je trouve que ces critiques, en général, émanent de personnes qui n'ont pas lu le livre. J'ai des critiques presque opposées. Lorsque les personnes ont lu le livre et m'expliquent qu'ils ont plutôt trouvé un portrait comme étant peut-être l'un des portraits les plus fidèles du couple. Alors certes, je m'attaque à ce qui se passe dans les coulisses, c'est assumé. Dès l'avant-propos, je dis que c'est pas un livre qui est censé commenter ou justifier les erreurs de jugement, les prises de décision d'Emmanuel
c'est
Macron.
C'est pas un livre politique.
Je pense que c'est un livre politique, en revanche. Je pense que c'est un livre politique tout simplement parce que, d'ailleurs c'est ce que j'écris dès le début du livre, il y a un paradoxe pour tout dirigeant, c'est-à-dire que tout dirigeant, ça peut être même d'ailleurs des dirigeants d'entreprise, lorsqu'ils arrivent à la tête de leur entreprise, ou là en l'occurrence de l'État, arrivent avec leurs passions, leurs faiblesses, leurs craintes, leurs peurs, leurs joies, pourquoi pas, et doivent projeter une image de maîtrise, de rationalité. Et c'est ce paradoxe-là que j'ai décidé d'étudier à travers ce livre.
Alors, rentrons quand même tout de suite dans le vif du sujet, parce que on parle beaucoup de cette explication que vous apportez à cette fameuse gifle entre guillemets.
Moi, je ne parle pas de gifle.
De Brigitte Macron.
Non, mais c'est oui. important parce que non, mais depuis trois jours, on buzz beaucoup, comme on dit dans le langage médiatique, autour de cela. C'est pas moi. Qui
non, c'est
tente
pas vous.
De faire le
mais c'est comme ça qu'on a qualifié ce qui s'est passé. Rappelons, l'avion présidentiel arrive à Hanoï au Vietnam. Il a atterri et la porte s'ouvre peut-être un peu trop rapidement et on voit ce geste de Brigitte Macron sur son mari qui s'apparente à un coup, à une gifle. Mm-hmm. L'explication officielle, puisque l'image a fait le tour du monde, a été apportée par le président qui a parlé de chamaillerie. Vous dites en fait que c'est plutôt une réaction de quelqu'un de jaloux, une réaction de Brigitte Macron qui venait de tomber sur un message envoyé par une actrice iranienne à son mari, ou l'inverse, enfin en tout cas un dialogue entre les deux, l'actrice iranienne étant Golshifteh Farahani, qui est une des actrices iraniennes les plus connues et qui séjourne souvent en France. Donc là, vous rentrez dans la vie privée du président et vous laissez entendre en fait qu'il a une maîtresse.
Alors, je ne rentre pas dans la vie privée du président de la République. On a tous été témoins de cette scène. Moi, ce que je dis, c'est que les explications qui ont été apportées, il y a eu quatre versions qui ont été apportées. Je détaille ces quatre versions. Il y a eu la première, il s'agit d'une fake news qui a été démentie sur place par le président de la République et ses équipes eux-mêmes. C'est une chamaillerie, vous l'avez expliqué, qui a ensuite été corrigée. Dans un troisième temps, au cours de l'été 2025, ça a été publié dans Voici. C'est également ce qu'on m'a rapporté le 5 mars dernier, rapporté par l'entourage de la Première Dame, c'est-à-dire c'est le président de la République qui essayait d'envoyer de l'eau en direction de ses officiers de sécurité. La Première Dame ne souhaitait pas être mouillée. C'est encore donc cette version-là qui m'a été donnée le 5 mars par l'entourage de la Première Dame, qui a été corrigée de nouveau par la Première Dame elle-même quelques minutes plus tard, en disant qu'elle était fatiguée, qu'elle ne voulait pas descendre de cet avion, qu'en même temps elle était perturbée parce qu'elle avait fait tout le voyage, c'était un long voyage, il y a eu des turbulences, et que effectivement le président de la République aurait essayé de la détendre en lui donnant de l'eau. Donc moi j'arrive avec ces quatre versions-là, et parallèlement à cela, toutes les personnes que j'ai interrogées dans le cadre de l'écriture de ce livre m'expliquent une version différente, me donnent même des éléments de langage différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette fameuse affaire, je ne vais pas forcément aller plus loin, je me suis fixé une ligne rouge, je n'ai pas décidé d'enquêter pour savoir précisément quel était l'objet de cette relation, etc.
Pourquoi vous êtes fixé une ligne rouge sur cette relation?
Non, mais parce que j'estime effectivement que je ne souhaitais pas rentrer dans la chambre du président de la République.
Oui, mais vous en dites trop ou pas assez. C'est-à-dire, vous dites, par exemple, vous qualifiez cette histoire entre le président et cette actrice de platonique. Bah, là, vous rentrez un petit peu, vous êtes platonique.
Simplement parce que, et c'est ce que je dis dans le livre, je l'écris très bien, je dis qu'à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai échangé avec énormément de personnes dans leur entourage, et d'ailleurs, cette version-là, je l'ai fait confirmer ensuite par des membres extérieurs à l'entourage du président de la République et de la Première Dame, qui font partie de l'appareil d'État, tout simplement parce que j'ai conscience que c'est un sujet sensible. Et ses proches m'ont justifié ce qui s'était passé. Moi, je ne demandais aucune justification. On a tenté de me réduire cette histoire à presque rien. On a expliqué, oui, c'est quelques messages, comme il en envoie à énormément de personnes. C'est « je vous trouve jolie »,« je vous trouve magnifique » ou autre variante. C'est ce que j'explique dans le livre. Donc voilà, je dis qu'il y a plusieurs versions. Les versions de l'Élysée,
Florian,
et je donne la mienne.
Florian, Brigitte Macron, vous avez questionné Brigitte Macron. Elle vous a dit qu'elle ne regardait pas le portable, les messages de son mari dans son portable. Et ça, vous le dites dans le livre?
Mais je n'en parle pas dans le livre.
Mais pourquoi vous n'avez pas donné sa version?
Non, mais j'ai donné sa version. Non, oui, on peut même lire la version de la Première Dame. La version de la Première Dame, c'est très précis. Avant qu'elle ne soit corrigée donc par cette dernière elle-même, j'étais très fatigué, expliquera-t-elle. Le regard protégé par des lunettes au verre fumé. Il y a eu nombreuses turbulences durant le vol, ce qui m'a empêché de dormir. Cette explication servira à son entourage pour imposer, une fois pour toutes, ce récit comme le seul valable. Moi, je suis assez étonné, effectivement, du démenti apporté par l'Élysée. Pourquoi pas qu'on démente la version que j'avance, mais qu'on dise que je ne donne pas la version de l'Élysée, ou plutôt les versions de l'Élysée, c'est faux. Et je ne parle pas de Brigitte Macron qui irait fouiller ou qui irait regarder le téléphone du président de la République. Et on voit bien, et même dans une relation amicale, on arrive parfois à voir sans vraiment avoir l'intention, un message qui arrive.
Le téléphone s'allume.
Jean-Loup.
Non, je suis toujours un peu dubitatif sur ce genre de livre. Alors, c'est pas une critique contre vous spécifiquement, mais je considère qu'il y a la vie privée et que, comme son nom l'indique, elle est privée. Que étaler la vie privée des dirigeants politiques, c'est finalement quelque chose qui affaiblit le pouvoir politique. Que par exemple, lors de ce fameux déplacement avec cette fameuse gifle, en fait, c'était à Hanoï, et que ce qui compte dans cette affaire, c'était plus nos relations, les relations entre la France et le Vietnam, que les relations privées entre le président et son épouse. Et je suis un peu nostalgique de la France d'avant, vous savez, la France où, vous savez, qu'on ne connaît même pas la voix d'Yvonne de Gaulle. On n'a aucun enregistrement, aucune trace de sa voix, on ne la connaît pas. Où à l'époque, les journalistes ne se demandaient pas si Gaston Defferre préférait le missionnaire ou la levrette, mais préférait des analyses politiques plutôt que...
les responsables politiques nous montrent leur vie privée.
Oui, mais c'est pas la peine de ça, et c'est pas la peine justement.
Concernant le général de Gaulle et Yvonne de Gaulle, on peut citer cette une de Paris Match. Enfin, je veux bien, mais c'est-à-dire que moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout.
Qu'on
se fixe collectivement.
Ah bah je suis pour.
C'est-à-dire limite.
Les politiques sont les premiers responsables.
Au moment du voyage, on n'a parlé que de ça.
Je suis d'accord.
Concernant le président de la République et sa femme, ils ont commencé à faire campagne en présentant leur couple. Lorsque l'on voit même d'ailleurs l'ensemble des reportages qui ont pu être faits à l'époque. Lorsque l'on voit les images qui ont été données, parfois à regret d'ailleurs, du président de la République et de son épouse, qui était candidat putatif à l'époque, on a dévoilé l'ensemble de la vie privée. Il y a même eu un moment donné où le président de la République qui n'était même pas candidat à l'époque, a regretté le fait que sa femme ait donné trop de, d'informations, trop de photos. C'était et également à l'époque dans Paris Match.
Je me souviens de ce documentaire qui est passé sur TF1 après son élection, puisque TF1 avait suivi la campagne de 2017 Emmanuel Macron, et on voit Brigitte Macron sur tous les plans.
Donc c'est actualité à ce moment-là. Depuis Nicolas Sarkozy. Depuis Nicolas Sarkozy, c'est les politiques. Vous savez, moi, la seule relation amoureuse de politique qui m'intéresse, c'est celle entre César et Cléopâtre. Mais bon, ça fait 2000 ans et elle a été largement traitée par Plutarque et par Shakespeare. Mais en effet, vous avez raison, c'est les politiques qui ont commencé ce jeu.
C'est normal que les gens ici intéressent.
Oui, mais c'est eux, ils se discréditent eux-mêmes, en fait, les politiques, en exhibant leur vie privée. C'est Nicolas Sarkozy qui a introduit ça en France sur le modèle américain. Et c'est eux qui, en fait, se discréditent.
Mais ça peut aussi se permettre d'être
eux-mêmes.
Non, mais ça permet d'être élu, peut-être.
Oui, mais ça affaiblit leur pouvoir, ça affaiblit leur autorité. Pour avoir de l'autorité, il faut de la distance.
Jean-Loup est comme d'habitude obsédé par le « c'était mieux avant », alors qu'il suffit de lire « Les illusions perdues » de Balzac pour voir que l'obsession des journalistes pour la vie privée des politiques ou en tout cas l'envie de faire vendre par le gossip, c'est loin d'être nouveau. Les ragots, l'envie de faire vendre par les ragots, ça a toujours existé, mais malheureusement Jean-Loup a des œillères parce que Jean-Loup préfère dire « c'était mieux avant » que relire ses classiques, c'était gratuit. Maintenant, pour vous... Florian, quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes gentiment obsédé par Brigitte Macron. Enfin, en tout cas, c'est elle qui vous intéresse.
Oui, amoureuse. C'est un sujet. Non, je ne suis pas amoureux.
Non, mais
c'est plus un livre sur Brigitte Macron.
Non, mais voilà, vous êtes intéressé par Brigitte Macron, et c'est votre droit. Et c'est vrai que c'est un personnage romanesque, ou en tout cas, c'est un personnage fascinant et intéressé. Comment vous expliquez que elle prenne aussi peu la parole? En fait, elle a l'air d'être quand même une grande victime, une double victime, puisque d'abord, elle est victime de la carrière de son mari, puisque elle est un peu emprisonnée à l'Élysée, on dirait presque la reine d'Angleterre.
Et en plus, elle attend avec impatience, ça se termine.
Et en plus, elle est double victime parce que elle a pas choisi toutes les fake news, etc., qui circulent sur elle, sur les réseaux sociaux, tout le harcèlement, même la presse française qui lui est tombée dessus en 2017, puisque vous le savez, en France, il y a pas de statut de première dame, donc elle avait pas le droit de parler. Enfin bref, tout le monde lui tombe dessus, elle est double victime.
Je suis d'accord avec vous sur le statut de la première dame. Je trouve qu'il y a une hypocrisie en France. Il y a une hypocrisie, c'est-à-dire que on accepte le fait que Brigitte Macron soit à l'Élysée, alors que elle n'a aucune place dans le protocole. Elle n'a aucune place entre guillemets statutaire à l'Élysée. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui est à l'Élysée. Et qui est à l'Élysée parce que, par coutume, entre guillemets, autre.
Alors qu'on lui donne un budget, parce qu'il y a un budget.
Non, c'est même pas, entre guillemets, son budget. C'est-à-dire qu'il y a un budget alloué à la Première Dame, mais en fait, c'est le budget du Président de la République. Parce qu'on part du principe que, bien évidemment, la Première Dame, à un moment donné, va devoir gérer des courriers, va devoir gérer la presse,
donc elle a un directeur
va faire des
cabinet.
Déplacements. Donc elle a un directeur de cabinet, qui est en fait un directeur de cabinet qui fait partie de l'équipe du Président de la République. Donc, c'est-à-dire, il y a une hypocrisie générale, et ça, pour le coup, je suis totalement d'accord avec vous.
Je suis pas allé au bout de ma question.
À un moment donné, au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était le cas dans la campagne, il souhaitait donner un statut officiel à la Première Dame, ça a été fait aux États-Unis.
Et il a pas pu.
Il n'a pas pu, tout simplement parce qu'il y a eu une question et que effectivement,
c'est le sens de ma question, c'était est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de misogynie en France envers la Première Dame, de la misogynie très naturelle, qui est de dire c'est Madame Emmanuel Macron, c'est son staff à lui qui lui sert à elle, et elle est là que pour être prisonnière du pouvoir.
Mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs aussi pour cela que je me suis intéressé à la Première Dame. Je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous.
Il n'y a qu'à élire Marine Le Pen, comme ça, il n'y aura plus de problème de première dame.
Il y aura un premier monsieur.
Dans le cas de Marine Le Pen, ce sera peut-être une première dame.
Qui une première copine.
Petit passage dans votre livre où il faut comprendre ce qui se passe à l'Élysée. C'est-à-dire que vous rapportez une conversation où Brigitte Macron dit qu'elle se méfie des prédatrices.
Oui, elle s'est toujours méfiée.
Et donc, elle a fait en sorte que, alors je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait en sorte ou pas, mais que son mari soit toujours entouré d'hommes. Elle se méfie des prédatrices. Ça veut dire quoi, ça, en fait?
C'est vrai que Emmanuel Macron est plutôt entouré d'hommes. Ensuite, Brigitte Macron, mais comme toutes ses prédécesseuses, se sont méfiées. Je prends à un moment donné.
Je voulais vous raconter cet exemple
De Bernadette Roger. Chirac, qui dit en 2005 à propos de ce qui s'est passé durant les années où son mari était au pouvoir et à ce moment-là même il l'est encore. qu'il y a des, que les femmes sont comme des papillons attirés par la lumière. Bien évidemment que le pouvoir, et c'est ce que je tente d'expliquer dans ce livre, attire. Mais attire tout le monde.
Oui, mais là, elle bloque à un moment parce qu'elle voit une photo, elle demande à Bruno Roger Petit.
Oui, c'est une scène, effectivement,
mais racontez ce qui se passe.
Oui. Il y a des conseillères, effectivement, ça d'ailleurs, je le dis pas dans le livre, qui sont à un moment donné, tout simplement parce que c'est quelque chose de pas officiel mais officieux, qui postulent pour des postes à l'Élysée et qui à un moment donné, comme par hasard, dans le processus RH, sont reçus par quasiment tout l'état-major. Et le dernier rendez-vous, comme cela, au détour d'une conversation, d'un café, d'un déjeuner, est en compagnie de la Première Dame. Tout simplement parce que la Première Dame, effectivement, a, entre guillemets, un droit de regard sur les personnes qui entourent le président de la République. Ça a été le cas pour plusieurs conseillères, notamment, qui ont à un moment donné, effectivement, eu accès au président de la République.
Oui, sauf que là, elle voit une photo sur le portable de Bruno Roger Petit, oui. Et elle dit, elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas à l'Élysée. Voilà.
Donc c'est jalouse. Brigitte Macron qui est misogyne.
Non, elle est jalouse.
Non,
elle est jalouse. Ça,
pour le coup, elle fait la guerre aux femmes dans l'entourage.
Oui, elle se méfie, mais on peut comprendre.
Mais oui, mais elle se méfie sur des bases qui ne sont pas professionnelles.
Ce qui est intéressant dans votre livre, en fait, puisque je trouve que vous êtes effectivement beaucoup plus intéressé à Brigitte Macron qu'à Emmanuel Macron, on voit que le personnage vous intéresse, et c'est l'angoisse de la suite. En fait, c'est l'angoisse de l'après pour Brigitte Macron, puisque dans un an, elle va quitter l'Élysée. Elle a plutôt, si je comprends bien, envie d'être la grand-mère au Touquet qui s'occupe de ses petits-enfants, sauf qu'elle est mariée à un homme qui n'aura que 49 ans, donc qui n'est pas à l'âge de la retraite, qui lui aura peut-être envie de faire autre chose, de revenir en politique pour un prochain quinquennat en 2032. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir un problème entre les deux, alors que c'est un couple qui, depuis le début, est très fusionnel et depuis maintenant très longtemps.
Oui, non, mais c'est ce que j'explique d'ailleurs dans ce livre. C'est un couple très fort, très fusionnel, c'est un couple de pouvoir. Cette victoire en 2017, ils en ont rêvé, ils l'ont construite ensemble. C'était pas forcément.
C'est un couple qui se soutient aussi.
Un couple face à l'adversité. Soutient, mais en permanence. J'ai énormément d'exemples qui sont relatés dans ce livre au moment de la dissolution. Oui. Lorsqu'ils voient les résultats, ils s'effondrent. Elle est là. Elle est là pour le
soutenir. Elle est attaquée et accusée d'être un homme, il est là pour
la défendre. Il est plus présent parfois, mais il est là quand même, c'est ce que je relate également. Ensuite, concernant l'après 2027, moi ce que je dis hein, à peu près en filigrane dans tout ce livre, c'est que c'est un couple extraordinairement normal, extraordinaire car il ne ressemble à aucun autre et en même temps, ils sont normaux tout simplement parce que ils peuvent et ça tout à fait se comprendre, avoir à un moment donné des désirs qui ne sont pas les mêmes. On peut comprendre qu'une femme qui va vers ses 75 ans, à un moment donné, quand on voit la brutalité qu'ont été ces 10 années passées au pouvoir, elle avait envie de sortir tout ça, elle a envie de profiter de ses enfants et de ses petits-enfants, d'avoir cette, ça a été,
c'est alors une assez belle scène. Alors que lui, il a l'âge de travailler, de continuer.
Il a 49 ans, c'est pareil.
Restez avec nous, Florian Tardif, question de Jérôme Marty. Est-ce qu'on doit tout savoir, effectivement, aujourd'hui de la vie privée de ceux qui nous dirigent, parce qu'on veut tout savoir sur leur vie financière. On a créé la haute autorité sur la transparence de la vie publique. On doit connaître tous leurs comptes, on doit tout savoir. Est-ce qu'on doit savoir effectivement tout sur leur vie privée? Florian Tardif est avec nous, le couple Macron, un couple presque parfait, c'est aux éditions Alma Michel. Question de Jérôme Marty dans un instant. Et on vous attend au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Le livre s'appelle Un couple presque parfait. Il est aux éditions Albin Michel et c'est Florian Tardif qui est venu nous en parler. Ce couple, c'est le couple présidentiel. C'est Brigitte et Emmanuel Macron. On est revenu sur l'incident de la poussette, de la gifle, enfin ce que vous voulez. Mais Jérôme Marty, plus généralement, est-ce qu'il faut tout savoir de la vie privée de nos élus?
Bah écoute,
Jérôme.
Moi, j'ai lu le livre. Ça n'a pas été facile parce que quand même c'est pas ça n'a ni la précision d'un Victor Hugo ni la légèreté d'un Patrick Cohen. Quand même, hein. Il y a des passages qui sont même un peu comiques. Je vous en lis un. Quand vous nous dites toujours un peu les mêmes, Richard Ferrand, ils se réunissent le soir. Un peu les mêmes, Richard Ferrand, Pierre Charron, Jonathan Guémas et d'autres. Un verre de whisky à la main, un single malt écossais, langue à vulin, 16 ans d'âge, fumé, puissant comme eux. C'est un peu ça m'a fait marrer par certains côtés. Il y a plusieurs passages comme ça qui sont assez drôles. Mais après, sur le fond, sur le fond, on va pas se cacher la vérité, c'est de l'exploitation d'une souffrance, quoi. Vous savez très bien que votre livre est basé sur l'incident de l'avion. Tout le reste, c'est de l'enrobage. Je termine. Vous en parlez très justement. Ce couple, il est solide, extrêmement solide, et il est fragile de sa solidité. C'est cette fameuse courbe en U dont vous parlez. Quand ils se sont connus, ça a été très difficile à cause de cette différence d'âge, avec une famille qui était contre, un entourage qui des fois était contre aussi. Et puis ils sont arrivés dans une surface plane où ça a été accepté, c'était plus facile. Et puis aujourd'hui, le temps passant, on revient dans les difficultés. Et cette difficulté, elle est quand même beaucoup plus pour Brigitte Macron que pour Emmanuel Macron. Et donc, on a une femme qui a des difficultés et qui en aura encore plus dans les années qui viennent. Et votre livre vient rajouter cette souffrance. Et excusez-moi, mais moi, la question que je me pose, c'est mais à quoi ça sert ? Quel est le but ? À quoi ça sert de faire ce genre de bouquin ? Mais
franchement, la réponse de Florian Tardif.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis même sur l'incident au Vietnam. J'ai pas du tout écrit au début ce livre pour parler de ça. Je me suis même posé la question, à savoir est-ce qu'il faut que je parle de ça ?
D'accord. Et d'ailleurs, ça arrive plutôt à la fin du livre.
On n'en parle pas. Je n'ai pas souhaité expliquer tout ce qui s'est passé à côté, en faire des pages et des pages. Je crois que si on regarde grosso modo, ça fait 3, 4, 5 pages maximum sur 230.
Ça l'encadre.
Ensuite, ce que j'ai souhaité raconter, c'est justement, et vous l'avez très bien dit, la solidité d'un couple malgré des épreuves. Oui, je dis qu'il y a des épreuves. Il y a énormément d'épreuves auxquelles ils ont dû faire face durant toute leur vie. Mais je montre la solidité du couple. Et d'ailleurs, le chapitre qui suit l'incident qu'on commande depuis tout à l'heure du Vietnam, ça s'appelle « La femme de Sardanapale ». C'est-à-dire que Brigitte Macron, je la compare à ces femmes qui sont présentes sur le tableau de Delacroix, où il y a ce roi légendaire d'Assyrie qui met le feu à son palais, tout simplement parce qu'il voit le pouvoir lui échapper, et qu'il y a cette femme qui se couche sur le lit de ce roi d'Assyrie qui est présenté dans toute sa splendeur, et qui est prête à aller jusqu'au sacrifice ultime. Et ce que je dis, justement, c'est que Brigitte Macron, quoi qu'il arrive, et d'ailleurs c'est ce qui m'est rapporté par énormément de personnes de leur entourage respectif, est prête à faire cela. Tout simplement parce qu'elle est dans l'inconditionnalité de l'amour absolu. Voici ce que me dit l'une des plus proches de Brigitte
Macron. Est-ce que Emmanuel
ouvre la porte avec le fait qu'elle est probablement trompée?
Emmanuel Macron partage ce même amour inconditionnel?
Moi, je pense aussi. Oui. Après, il y a ce que vous décriviez tout à l'heure, cette courbe en U. Il y a un moment donné, on est traversé, mais tout être humain,
le doute,
par des doutes, des craintes, des peurs, parfois des désirs. Contraire.
Mais
ça arrive à tout le monde. En fait, c'est ça qui m'impressionne dans ce qui se passe depuis plusieurs jours. C'est-à-dire que on a l'impression que parce que c'est le président de la République et c'est la première dame, ils ne sont pas traversés par ce qui nous traverse tous. C'est Montaigne qui dit cela à un moment. Chaque être humain, chaque homme, je crois, mais homme ou femme, porte en lui une forme entière de la condition humaine. Mais c'est le cas pour nous tous, autour de cette table. C'est également le cas du président de la République.
Mais est-ce que vous êtes en service commandé de Brigitte Macron?
Non, pourquoi?
Est-ce que c'est l'entourage Brigitte Macron qui vous a donné des infos en disant c'est un livre où on va enfin parler d'elle, de ses souffrances ou pas?
Non, pas du tout, non. Pour le coup, après, ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé l'écriture de ce livre, puisque tout se sait à Paris. Je sais très bien comment fonctionne le système politico-médiatique. Je sais très bien que, d'une certaine manière, je vais devoir parler aux proches de l'un et de l'autre. J'ai même fait le choix de ne parler qu'aux proches de l'un et de l'autre, tout simplement parce qu'on est à un an de la présidentielle, qu'il y a certaines personnalités autour d'eux qui sont nourries encore d'une certaine amertume, qu'il y a des conflits d'intérêts, qu'il y a peut-être des ambitions contraires. Je savais très bien qu'ils allaient être au courant à un moment donné. Donc qu'est-ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai écrit ce livre? Je leur ai dit voilà, j'ai écrit un livre sur vous, sur le couple que vous êtes, et je vais interroger vos proches. C'est tout. J'ai prévenu le cabinet de madame et ensuite j'ai prévenu le cabinet de monsieur. Il n'y a eu aucune pression de leur part. Jamais. Et je n'ai jamais fait relire un passage à l'un ou à l'autre.
D'accord. Okay. Est-ce vrai que France 5 a annulé votre participation à une émission au dernier moment?
C'est-à-dire
vous deviez participer à C'est à vous et vous avez été annulé.
À un moment donné, oui, effectivement.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Vous espérez qu'il vous réinvite?
Mais probablement, oui.
Non, mais
probablement.
Pourquoi
probablement.
Au dernier moment? Vous savez pas?
Je ne sais pas.
Il y a eu une instruction?
Je ne sais pas.
Est-ce que la proximité
vous a demandé une explication?
Je crois que mon éditeur a demandé une explication, mais il n'en a pas eu.
Est-ce que c'est difficile de vous faire inviter sur les plateaux?
Non, je n'ai pas l'impression. Enfin, je suis.
Dans les grandes gueules en général, nous on reçoit tout le monde.
Non, je vais faire.
Non, mais le producteur de C'est à vous, c'est Media One, c'est Monsieur Capton, c'est un très proche du couple Macron. Est-ce qu'il aurait pu exercer une censure?
Je ne veux pas le croire en tout cas.
Mais a priori,
vous ne voulez pas le croire.
Ils vous ont dit qu'il y aurait une nouvelle invitation?
Vraisemblablement, ils sont ouverts à ce qu'il y ait une nouvelle invitation.
Vous ne voulez pas le croire, mais vous interrogez.
On verra si vous êtes ou pas invité à nouveau.
On verra.
Jean-Louis Bonamy.
Si on quitte justement un peu le bourbier jamais très glorieux de la vie privée, est-ce qu'il y a une influence politique de Brigitte Macron? Par exemple, on sait qu'elle a beaucoup soutenu Jean-Michel Blanquer, qu'elle était proche de Blanquer et de ses conceptions sur l'éducation. Donc voilà, est-ce qu'il y a une influence, et si oui, laquelle, de Brigitte Macron sur certains choix ou certaines lignes politiques?
Mais c'est aussi pour cela que je me suis intéressé au couple. C'est un couple politique.
Eh bien, allons-y.
C'est-à-dire que tout le monde, depuis trois jours, dit oui, vous immiscez dans la vie privée des uns et des autres. Enfin, à un moment donné, et c'est presque tout à fait normal, quand on prend une décision dans la vie, on est forcément, à un moment donné, influencé plus ou moins par son entourage. C'est également le cas du président de la République.
Exemples.
Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous citiez Jean-Michel Blanquer, on pourrait citer Rachida Dati, on pourrait citer Marlène Schiappa, on pourrait citer Gabriel Attal, on pourrait citer Sébastien Lecornu. Je dis même, à un moment donné,
les chouchous
livre,
de la présidente.
Les chouchous de la présidente.
À Gabriel Attal, ça doit plus trop être le chouchou aujourd'hui.
Vous avez raison. Je le montre bien dans le livre. À un moment donné, j'ai même été témoin, tout simplement parce que j'ai participé à énormément de déplacements du président de la République et parfois de la Première Dame, d'une scène assez cocasse où il y a quasiment une vingtaine de ministres qui font partie d'un déplacement en Allemagne, à Hambourg. Nous sommes tous invités, la presse y compris, à aller sur... le long d'une rive pour déguster une spécialité locale qui est un sandwich au poisson. Et là, il y a comme une queue quasiment qui se forme de ministres pour pouvoir parler à la Première Dame. Tout simplement parce que parler à Brigitte Macron, c'est parler à Emmanuel Macron. Et quant à l'influence qu'elle peut exercer sur certaines décisions, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas eu de référendum, je crois, en France.
Oui, oui.
Il a été annoncé. Il y a même eu une émission de télévision sur TF1, Les Défis de la France, Emmanuel Macron, Les Défis de la France, qui a été organisé. Dans quel but? On se demande, tout simplement parce qu'il n'y a eu aucune annonce.
Et
cette émission a été organisée pour annoncer la tenue d'un ou deux référendums.
Et c'est Brigitte Macron, vous l'écrivez, qui fait reculer
son mari, tout simplement parce que, et on peut le comprendre, on en parle depuis le début de cette émission, elle a peur des conséquences que cela peut avoir. Elle estime en son fond intérieur que proposer un référendum,
ça peut. Est-ce que Brigitte Macron, c'est l'aile droite d'Emmanuel Macron?
Elle est plus à droite que lui.
Elle est plus à droite.
Une dernière question, oui. Parce que vous racontez.
L'iranienne est peut-être plus à gauche.
Vous racontez cette petite phrase. Réserve-moi une chambre chez toi si les choses tournent mal. C'est ce que dit Brigitte Macron à Stéphane Bern. Parce que après les gilets jaunes et après la dissolution,
elle a eu peur physiquement.
Oui, elle s'est dit ça peut mal tourner dans le pays.
Mais oui. Mais ça a été très violent. Enfin, on a oublié ce qui s'est passé avec la crise des gilets jaunes.
Il y a eu un assaut au ministère.
Mais là, on est après la dissolution. Là.
Non, mais là, on est après la dissolution. Mais elle revoit ces mêmes images après la dissolution. C'est-à-dire qu'elle revoit les images de ce qui s'est passé en décembre 2018. C'est-à-dire qu'imaginez bien, en décembre 2018, il y a un périmètre de sécurité autour du palais qui est très important. Mmh. Il y a même des ministres qui sont envoyés dans des hôtels qui font partie de ce périmètre de sécurité, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de protéger Bercy tout en protégeant le Palais de la République, tout en protégeant l'Arc de Triomphe et l'ensemble des avenues qui sont autour des Champs-Élysées. Enfin, l'Arc de Triomphe par rapport au Palais de l'Élysée, pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, c'est moins d'un kilomètre. Et on a concentré toutes les forces de l'ordre au niveau de l'endroit où ont lieu les manifestations. Donc forcément, il y a moins de personnes pour protéger les autres lieux de la République. Il y a eu à un moment donné où on s'est imaginé autour du président de la République et de sa femme, qu'est-ce qu'on fait ? Si le palais est pris, il faut qu'il soit à un moment donné exfiltré. Il y a même une conseillère qui me dit, on avait une équipe A, une équipe B. Parce que s'ils sont exfiltrés, ils se retrouvent tout seuls. Donc il faut aussi une équipe de sécurité, de conseillers ou autres qui les accompagnent ou qui soient présents à l'extérieur de Paris. C'est-à-dire que vous aviez une partie de l'entourage qui était présent au palais, il y avait une autre partie qui était potentiellement, en tout cas, qui avait en tête qu'il pouvait se déployer à l'extérieur de la capitale.
La fuite de Varennes.
Merci Florian Tardif, un couple presque parfait aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu répondre au GG. Allez, suite des grandes gueules. Dans un instant, restez avec nous, on a encore des choses à se dire sur la liberté d'expression.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules.
J'ai encore des réactions justement sur la vie privée, sur le livre de Florent Tardif. C'est Daniel qui nous dit, pourquoi parlez-vous sans cesse de première dame? Parce que ce n'est pas reconnu. Je préférerais que l'on parle d'épouse du président. Corinne nous dit, désolé, mais moi ça ne m'intéresse pas la vie privée de nos élus et Madame Macron en prend plein la tête. Il y a Benoît qui dit, arrêtons de faire le procès de ce journaliste. Les situations de couple de nos présidents sont toujours très révélatrices. Elles sont aussi instructives sur leur manière de diriger. Jean-Yves qui félicite Jérôme Marty. Bravo Jérôme Marty. Bravo d'avoir dit la vérité aussi à ce journaliste. C'est de l'enrobage, ça n'a aucun intérêt littéraire. Et puis Clotilde qui termine. Merci quand même à ce journaliste de Paris Match qui révèle la solidité de notre couple présidentiel. Et puis Clotilde qui rajoute, j'en profite pour saluer Louis, Anne-Laure et Anaïs, les petites fourmis de la régie. Voilà, un salut à toutes les petites mains qui font les grandes gueules tous les jours.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy, Flora Guebali et Jérôme Marty. On va terminer pendant les 10 dernières minutes et je compte sur vous encore au 32-16 pour revenir sur les humoristes, vous savez, de la petite radio qui monte, qui s'appelle Radio Nova. Et polémique autour des humoristes de Radio Nova, en particulier Pierre-Emmanuel Barré. Pierre-Emmanuel Barré, qui dans un sketch a souhaité un cancer, enfin dans un sketch humoristique, a parlé d'un cancer du pancréas pour Gabriel Attal et d'un accident de voiture pour Sophia Aram.
Oui, alors c'est toujours pareil, c'est que c'est compliqué, c'est de l'humour. Donc a priori, quand on est humoriste, on peut tout dire. Sauf que là, effectivement, c'est particulièrement violent parce qu'il souhaite dans son sketch, dans son papier, la mort de Sophia Aram. Alors on sait que Sophia Aram et Radio Nova, ce sont les ennemis jurés, et la mort également de Gabriel Attal en parlant de cancer, d'accident de la route. Alors est-ce que c'est de l'humour et même si c'est trash, il faut rien dire, ou au contraire là, ça dépasse l'humour et ça devient de la violence verbale tout simplement, et il faut dire stop.
Alors pour Sophia Aram, il dit, ah putain Sophia, je te souhaite tellement de devenir daltonienne, de traverser au feu rouge, et là bam, ah non merde, mais comment va la bagnole, ça va, elle roule encore, super, alors repasse une fois en marche arrière, c'est violent, mais elle met des guillemets, elle, à un vrai génocide à Gaza, je peux lui mettre une kangoue imaginaire dans la gueule. Voilà ce que dit Pierre-Emmanuel, ça fait marrer Jérôme Marty.
Ça me fait marrer, c'est
t'as ri.
Mais oui, non, mais parce que c'est de l'humour noir, Pierre-Emmanuel Barré, il est connu pour ça, donc quand tu le suis, tu connais ses débordements et qui sont des débordements organisés, avec cette capacité à faire de l'humour noir, c'est pareil pour Meurice, c'est pareil pour VDB, c'est pareil fait pour tout ce qu'ils sont, mais là, on a quand même, depuis quelque temps, on va pas se cacher le truc, il y a une orientation politique, qui est prise en conscience,
qui est assumé le propriétaire Mathieu Pigasse, qui est dans un combat politique de gauche, il l'a dit, il est venu
ici assumé, nous en parler et face à eux des gens aussi qui ont une orientation politique, donc bon, c'est toujours pareil quoi, c'est de l'humour à la Charlie Hebdo, c'est de l'humour trash, tu l'as dit, très trash. Le truc c'est qu'aujourd'hui avec
soit les réseaux, Charlie soit on n'est pas
le
Charlie,
truc
quoi,
c'est que ça. Autant tu vas chercher l'information Charlie Hebdo, tu l'achètes pas. Radio Nova, tu vas sur Radio Nova ou tu vas pas sur Radio Nova. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec la problématique des réseaux sociaux, cet humour-là, il s'évade et des gens qui n'ont pas ou qui ne les connaissent pas
tombent dessus,
effectivement, sont choqués et effectivement, à ce moment-là, attaquent parce que c'est sorti du contexte de cette émission-là pour ensuite sortir et ça peut faire très mal, quoi. Ça peut faire très mal. Et c'est toute la difficulté qu'il y a autour, même de discuter de ça, parce que
si on veut pas, on n'écoute pas.
Ouais, mais à la fois ils sont extrêmes. Moi, je peux pas défendre en tant que médecin un humour qui va souhaiter la mort de quelqu'un, tu vois. C'est difficile.
Alors, en fait, il dit. J'ai cité le sketch sur Sophia Ram. J'ai cité celui, ça prend trois lignes, sur Gabriel Attal, où il parle de l'Eurovision. Il dit, oh, moi, j'en ai rien à foutre de l'Eurovision. En fait, je dirais pas que j'en ai rien à foutre. J'irai en un, l'Eurovision. En deux, la candidature de François Ruffin. Et en trois, le cancer de Gabriel Attal. Je dis pas qu'il a un cancer, hein. J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Je dis juste que si on m'apprenait qu'il avait un cancer, je dirais, ah, pancréas. Non. Ah, dommage. Mais je m'en bats tellement les couilles de l'Eurovision. Voilà.
Pourtant, Barré, l'humoriste, il m'a fait beaucoup rire par le passé. Je le trouvais très drôle et j'aimais son côté humour noir et politiquement incorrect.
Il a quitté France Inter. Il était sur Canal.
Ouais, bon, ça fait longtemps qu'il est là. Et là, je trouve que c'est pas drôle, en fait. C'est de l'incitation à la haine. Moi, souhaiter la mort des gens, que ce soit mes ennemis, mes alliés, n'importe qui, même mon pire ennemi, si on lui souhaite sa mort, ça me fait pas rire, en fait. Et rire de ça, je trouve que c'est gras et je trouve que c'est, vraiment de l'incitation à la haine. Et en fait, c'est marrant. Moi, ça me fait pas penser à Charlie Hebdo. Ça me fait penser à l'affaire Dieudonné. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieudonné, il était plus drôle. Il cherchait plus à faire rire. Il cherchait à, défendre un discours. Moi, Gabriel Attal, j'espère qu'il a un cancer du pancréas. Ah non, en fait, je m'en fous. Où est la blague à l'intérieur? Je vois pas l'humour, en fait. C'est pas moi qui suis pas drôle. Je crois que c'est la blague qui est pas drôle. Et en fait, quand c'est pas drôle et que c'est de l'incitation à la haine, c'est non. Et juste un dernier truc, que vous soyez Sophia Aram, c'est-à-dire une humoriste, ou Gabriel Attal, c'est-à-dire un politique, ça va? Vous avez pas demandé non plus de... que les réseaux sociaux s'enflamment sur votre mort ou votre cancer.
C'est ça. Enfin,
vous avez une famille un peu superstitieuse. Vous êtes Gabriel Attal à qui on souhaite un cancer. Je peux vous dire que votre famille, elle veut plus que vous fassiez de la politique. C'est en fait à un moment, c'est quoi le coût de l'exposition publique aujourd'hui?
Alors Jean-Loup, est-ce que c'est Charlie comme le dit Jérôme ou trop violent et de l'appel à la haine?
Je commence par une petite précision, par un petit correctif qui a l'air hors sujet, qui en fait est totalement en lien avec le sujet. C'est que tout à l'heure, au début d'émission, Olivier a dit, je ne sais pas pourquoi, que je cite, je détesterais Israël, ce qui est complètement faux.
C'était une vanne.
C'est un pays que j'apprécie, contre lequel je n'ai rien, et je le dis pour tous les franco-israéliens qui nous écoutent, c'est un pays que j'apprécie simplement. Je critique la politique actuelle du gouvernement d'extrême droite en Israël, que je distingue bien de l'État d'Israël. Et c'est en rapport avec le sujet, puisque en fait, dans le conflit qu'il y a entre Radio Nova et Sophia Aram, derrière, d'ailleurs il le dit, hein, il a parlé de Gaza, il y a explicitement le conflit israélo-palestinien. C'est ça qui a fracturé ces deux tendances issues de la gauche et qui en a fait vraiment des frères ennemis. Donc cette guerre, elle vient de là, c'est une répercussion du conflit israélo-palestinien. Palestiniens en France. Il se trouve que personnellement, la plaisanterie là ne me fait pas rire, mais qu'elle fait partie de la liberté d'expression. Je défends la liberté d'expression, ça peut pas être à géométrie variable. La liberté d'expression, c'est même, et je dirais même surtout quand ça ne nous fait pas rire, qu'on doit être capable de la défendre. C'est facile de défendre les gens qui te font rire et avec qui t'es d'accord. Moi, je défends aussi les gens, même quand ils ne me font pas rire. Si on commence par censurer Pierre-Emmanuel Barré, ça commence là. Où est-ce que ça s'arrête, en fait? Donc, il a le droit de s'exprimer.
On a le droit de ne pas être content non plus.
On a le droit de ne pas être content, mais on doit lui laisser. D'ailleurs, Florent parlait de Dieudonné. Moi, je suis aussi pour la liberté d'expression de Dieudonné. Et de tous les humoristes, on ne comprend rien.
Il sait parfaitement que, par son sketch... Puisque là, c'est écrit, il faut voir l'émission, comment c'est fait. Bon, il a ça, il sait deux minutes, il balance sa chronique, qui est un sketch. Il sait très bien que, par ses paroles, même s'il ne l'apprécie pas, il met une cible dans le dos de Sophia Aram. Ni plus ni moins, il met une cible dans le dos de Sophia Aram. Quand tu dis que Sophia Aram met des guillemets au génocide et que donc lui ça lui donne le droit de lui envoyer une kangou dans la gueule.
Une kangou imaginaire.
Oui, imaginaire, bien imaginaire. Sûr. Sauf que les gens qui l'écoutent, ça justifie potentiellement la violence qu'ils peuvent faire à quelqu'un. Non, mais on est dans une situation tellement tendue aujourd'hui.
Donc c'est trop violent dans ses propos.
Je dis pas. C'est là où je suis très partagé. Moi, je le dis, moi. Aujourd'hui, ça trouve des échos qu'il n'y avait pas avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça diffuse. Voilà, et qu'il y a des gens qui ne sont pas formés à ça.
Oui, mais dans ce cas-là, il faut s'auto-censurer.
C'est tout. Je voudrais citer Salman Rushdie. Salman Rushdie, quand il a été agressé il y a quelques années, d'ailleurs tout le monde l'avait soutenu, il y a eu un consensus pour le soutenir, il a dit, si vous êtes pour les, si vous dites, je suis pour la liberté d'expression, mais, alors vous êtes contre la liberté d'expression. Il n'y a pas de mais à la liberté d'expression.
Donc dans ce cas,
tant qu'il n'y a pas d'appel direct à la violence.
En France, il y a un mais, puisqu'il y a la liberté d'expression, elle est encadrée par la loi, par exemple, le racisme, l'antisémitisme, c'est un délit. Donc la France, elle dit mais. Elle dit la liberté d'expression, oui.
Oui, mais là, il n'y a pas eu racisme, ni antisémitisme, ni appel à la violence.
Non, mais c'est pour ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a un cadre dans la liberté d'expression.
Ce qui est intéressant, c'est le succès de Radio Nova, moi, je trouve, à analyser. Ah, oui. Parce que c'est ça cartonne, la radio cartonne. C'est une petite radio au départ. Ils n'ont pas beaucoup de fréquences. Et c'est vrai qu'ils ont fait, ils font, et je le dis, on est dans une radio concurrente. Donc je le dis en toute objectivité. C'est vrai que c'est un petit phénomène en ce moment.
Un beau succès.
D'audience. Donc ça répond à quelque chose. C'est vrai que je pense qu'il y a besoin de radicalité. Et peut-être que c'est une réponse à la bien-pensance, au politiquement correct, au fait où on veut que tout soit lisse, parce que on régule. En France, on aime bien réguler, donc on a des instances de régulation. Et puis on signale, et puis on est outré, parce que on est aussi dans une société où tout le monde se sent outré. C'est la génération outrée. J'ai terminé mon raisonnement. Et donc, effectivement, tout d'un coup, t'as une radio qui assume totalement un positionnement très à gauche, qui assume effectivement une certaine radicalité, très pro-palestinien, etc. Et qui assume totalement cette radicalité. Bon, ben, est-ce que c'est finalement pas une mauvaise chose? En tout cas, est-ce qu'il faut réfléchir pourquoi justement cette radicalité triomphe aujourd'hui?
Mais juste, Olivier, j'ai une question. Olivier, j'ai une question. Olivier, j'ai une question pour toi. Si Barré avait dit Olivier Truchot, il va se faire écraser par une kangou imaginaire. Ah mince, la kangou.
Je te dis une chose, Radio Nova.
Tu te serais marré.
Non, mais attends, Radio Nova passe le temps à nous attaquer. Mais sincèrement, ils passent leur temps à nous attaquer. On est une des cibles de Radio Nova. Mais moi, ça me le gêne pas. Parce que c'est pas en ayant créé une émission avec Alain qui s'appelle Les Grandes Gueules où on essaie justement d'avoir liberté d'expression. Je vais pas avoir des pudeurs de gazelle en écoutant un sketch de Barré. Je suis pas d'accord avec, je trouve ça violent effectivement contre les personnes désignées, mais c'est sa liberté. Et si j'aime pas Radio Nova, je n'écoute pas Radio Nova parce qu'on a aussi effectivement la liberté de ne pas écouter tout ça.
Mais ça fait du, je te jure que il y a des choses qui me choquent, mais ça fait du bien, putain, dans cette espèce de société qu'on a, qui est hyper encadré, avec des tartuffes qui pensent qu'en se mettant en cravate, ils cachent le racisme qu'ils ont ou autre, ça fait du bien d'avoir des gens qui balancent des bouffes, quoi, avec un certain talent d'écriture, en plus.
Ah, non, mais je dis pas que tous ces humoristes n'ont pas de talent.
Alors moi, sauf que Sophia Aram, elle a quand même dû déménager aussi.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'on lui met une cible dans le dos.
C'est pas à cause de la faute de
lui. Merci, mes chers GG.
Je suis pas sûr que ce soit la faute de lui.
Merci d'avoir été avec nous, d'avoir discuté, débattu avec les grandes gueules. On se retrouve lundi avec Charles Consigny, Flora sera avec nous, Bruno Poncet, le cheminot, et on recevra Béatrice Brugère, la magistrate, parce qu'au moment où, vous savez, on critique beaucoup les magistrats, on estime qu'ils ont trop de pouvoir, justement, elle revient avec un petit livre, la juge Brugère, les juges ont-ils vraiment tous les droits? Donc on en débattra dans les GG lundi. Bonjour Charles Manier.
Salut Alain, salut les GG. Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler du pouvoir d'achat des familles. Un tiers des parents ne peut plus se permettre de faire plaisir à ses enfants. Et surtout, ses parents demandent l'aide de l'État. Est-ce que l'État doit en faire plus pour aider les familles? On va en parler dès midi. À midi et demi, on va parler de ce nouveau job qui a fait beaucoup parler cette semaine. Une coach en prénom, une consultante qui aide les parents à trouver, à choisir le prénom de leur enfant. Ça fait sourire Flora, prête à payer...
Ça a été compliqué Flora, de trouver?
Non, pas du tout.
Bah oui, mais il y a des parents qui payent 60 euros pour une consultation.
Et les parents qui sont pas d'accord entre eux, alors.
Exactement. Je sais pas si les parents d'Alain ont beaucoup cherché. Je pense qu'à l'époque, c'était Alain ou Philippe, et hop, on verra bien. C'était ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement de prénoms que c'est de plus en plus compliqué de choisir. On parlera aussi de cette demande des auto-écoles, autoriser la conduite accompagnée dès 14 ans en France. Ouais, 14 ans sur l'autoroute, au volant de la berline familiale. Pour ou contre, on en parlera avec Fred Hermel, avec Juliette Briens, avec Jacques Legros. Et on a un tu préfères très sportif. Est-ce que vous préférez, les amis, qu'un Français remporte le Tour de France ou Roland Garros?
Tour de France.
Tour de France.
Oui. Roland Garros, ça n'arrivera ni pour le Tour de France.
Ni pour l'Eurovision, mais bon.
Non, mais on se fait plaisir.
L'Eurovision.
On soutient Monroe.
Ou la Coupe du Monde.
Allez, 30
Monroe.
C'est plus probable. Allez, Monroe. Bonne émission. Soutient.